12h30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Bonjour Omeline.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Dans une minute, votre journal. Et juste après, on part au bord de mer. Vous y êtes peut-être déjà d'ailleurs ou sur le point de partir. Alors c'est au sport nautique qu'on a choisi de s'intéresser. Et vous allez voir que là aussi, les Français ne sont pas en manque d'inspiration pour faire bouger les choses. À tout de suite.
Il est midi et demi.
Le Tour de France quitte la Belgique et arrive chez nous, direction la Marne, pour l'arrivée de cette troisième étape avec un homme à suivre, Julien Alaphilippe. Le Français affiche la couleur, il veut du jaune ce soir. Téléphone plus infraction égale retrait de permis immédiat. Le gouvernement veut stopper l'usage du portable au volant et décide de sévir. On lève le pied du côté de Bègles. La ville passe à 30 km/h. À partir d'aujourd'hui, première commune à limiter la vitesse sur toute l'agglomération. À la une aussi dans ce journal, séquence rattrapage pour les bacheliers. Les oraux ont démarré ce matin avec en prime la distribution des copies retenues par les professeurs grévistes. La pénurie aussi de médicaments dans les pharmacies. Agnès Buzyn promet un plan de bataille pour mettre fin aux ruptures de stock. Et puis le nouveau Premier ministre grec s'appelle Mitsotakis. Le chef de file du Parti conservateur doit être investi dans les minutes qui viennent après sa victoire sans appel aux législatives. La météo, Elena Morna, 7 départements en vigilance pour les orages.
Des violents orages, effectivement, cet après-midi et ce soir au sud de la Garonne jusqu'au golfe du Lion. Orages accompagnés de fortes pluies, grêle et vent. Des orages qui se calmeront dans la nuit mais reprendront de plus belle demain matin. Ailleurs, c'est beau et toujours trop chaud dans le sud-est, beaucoup plus respirable sur l'ouest et le nord, Raphaël.
Merci Elena. Météo complète, ce sera juste avant 13h sur Europe 1.
Europe 1.
Le journal de la mi-journée, Raphaël Duchemin.
Elle est partie depuis 48 heures et ça y est, la grande boucle arrive enfin en France.
Europe 1. Le Tour de France avec Dequeninck. Fenêtres, portes, volets, terrasses composites. Dequeninck.fr.
Troisième étape pour le peloton qui a quitté la Belgique il y a, allez, une vingtaine de minutes maintenant et qui va rouler pendant 215 km entre Binche et Épernay. Axel May, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 pour nous faire vivre ce tour et aujourd'hui, tous les regards sont braqués vers Julien Alaphilippe. Le Français n'est qu'à 31 petites secondes du maillot jaune et il est bien décidé à aller le lui ravir.
Oui, oui, Raphaël, même si 31 secondes, c'est à la fois peu et beaucoup. Hier, lors du contre-la-montre par équipe, Julien Alaphilippe ne pensait clairement pas perdre autant de temps sur la formation du maillot jaune. Mike Tennyson, qui a remporté ce contre-la-montre dans les rues de Bruxelles, disons qu'il n'y aurait ce matin que 15 secondes d'écart entre le Néerlandais et Julien Alaphilippe. Je vous aurais dit, oui, le numéro 1 mondial va aller chercher la tunique couleur soleil sur un final accidenté qui lui convient parfaitement ici à Épernay. Alors là, j'aurais tendance à dire qu'il va privilégier la victoire d'étape, même si les deux ne sont évidemment pas incompatibles. Mais attention, car Alaphilippe n'est pas le seul coureur qui a les qualités explosives requises pour ce final accidenté en Champagne dans cette bataille cycliste de la Marne annoncée. Donc pour résumer, je dirais victoire d'étape d'Alaphilippe possible, maillot jaune plus compliqué. Et puis, je vous signale, Raphaël, qu'une échappée vient de se former avec quatre Français. Ursulin, Rossetto, De La Place, Offredo et un Belge, puisqu'on est encore en Belgique, Tim Wellens.
On se rappelle évidemment pour suivre cette échappée juste avant 13h, Axel. Et cette étape, évidemment, n'est pas une promenade de santé sur le papier. Ça se gâte notamment dans les derniers 30 km. Bonjour Thomas Vauclair.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes notre consultant sur ce Tour de France. On va vous retrouver tous les jours sur Europe 1. La principale difficulté aujourd'hui, on est bien d'accord, hein, c'est la côte de Mutigny. Cette étape, on dit qu'elle est faite pour les punchers. Elle peut paraître simple sur le papier, mais il y a les bosses en fin de parcours, des routes étroites aussi.
Oui, c'est vraiment pas une étape classique de début de Tour de France. Hein. C'est pas une étape plate où vous allez avoir une échappée qui va tranquillement être rattrapée par le peloton, tranquillement entre guillemets, et se conclure par un sprint massif. Non, il y aura vraiment du sport dans la dernière heure de course. Il y a plusieurs montées, alors ce ne sont pas des cols, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas difficile parce que c'est des montées courtes, sèches, raides, des petites routes dans les vignobles, ça monte, ça descend, il y a des gros risques de chute. Il faudra vraiment une vigilance extrême des coureurs pour ne pas se faire piéger.
Oui, c'est très technique, il y a des plaines très plates, on peut aussi se faire prendre par le vent.
Oui, le vent va jouer un rôle. Bon, il n'est pas si fort que ça, mais il faut toujours être attentif. Les routes sont si étroites sur le final, on est même, à un moment on est même sur une bande de béton que... que je pense à s'il y a des équipes qui décident de prendre le taureau par les cornes et d'accélérer un grand coup, comme on dit, ça peut faire des dégâts, d'autant qu'il y aura un combat de placement. Tout le monde voudra se placer à l'avant du peloton. Et sur des petites routes comme ça, forcément, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et un moment aussi intense, il peut y avoir des chutes, des éliminations sur chute. Hein, ça, on peut pas, ça fait partie du vélo, malheureusement. Et il peut y en avoir aujourd'hui.
On vient de parler avec Axel de Julien Alaphilippe. Est-ce que c'est si facile que ça aujourd'hui pour lui d'aller arracher le maillot jaune des épaules de Tönnissen? Le Néerlandais est quand même très en forme.
Ouais, il est très, très en forme, il est un gros collectif, et si prendre un maillot jaune c'était facile, je crois qu'il en perdrait de sa valeur. Julien, il est motivé, oui. C'est un parcours qui lui convient vraiment à merveille. Maintenant, il est également très surveillé par les adversaires et peut-être que justement il a trop la pancarte, comme on dit dans le jargon. Quand avoir la pancarte, ça veut dire être désigné favori pour pouvoir avoir un créneau de liberté. Mais il est tellement talentueux qu'on n'est jamais à l'abri de rien avec ce garçon.
Dites-moi, qui est-ce qui peut contrarier les plans de la Jumbo-Visma? Alors, Sagan, il coche toutes les cases, lui, pour le coup.
Oui, exactement. Un coureur comme Peter Sagan, il n'est pas du genre à rester, à se satisfaire d'une deuxième place comme il l'a fait lors de la première étape. Il est clair que le parcours lui convient parce que c'est un coureur très rapide au sprint, mais c'est également un pas mauvais grimpeur du tout. Sur des côtes aussi courtes et raides, c'est un terrain parfaitement à sa convenance. Ouais.
Merci beaucoup Thomas Voeckler. On vous retrouve avec Axel May ce soir pour le Club Tour des 19h sur Europe 1. Et on suit évidemment toute la course avec vous en fil rouge.
À ce soir.
Europe 1, il est 12h35.
Voilà qui va vous faire lâcher votre téléphone si vous êtes en train de conduire. Le gouvernement a décidé de sévir. Fini l'amende. Désormais, ce sera retrait de permis immédiat si vous êtes pris le portable à l'oreille en train de commettre une infraction. L'Assemblée nationale a déjà adopté cette disposition qui figure dans la future loi mobilité. Il faut dire que les coups de fil au volant sont impliqués, écoutez bien, dans au moins un accident sur 10. On a beau le savoir. Pour l'instant, Marion Jort, en voiture, c'est toujours pas vu, pas pris.
Eh bien oui, Raphaël, faisons un test avec ce premier automobiliste que j'ai rencontré ce matin et qui trouve le retrait de permis en cas d'infraction avec un téléphone un peu excessive.
Vous utilisez votre portable ?
Bah, je suis en train de téléphoner, là. T'entends ma puce ? Je pourrais plus t'appeler. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est encore faire du fric, hein ? On n'a plus le droit de rien faire. Hein.
Et oui, plus le droit de rien faire, c'est aussi l'avis de Samy, un autre automobiliste qui conduit ses deux enfants à l'arrière de sa voiture. Pour lui, une telle disposition n'est pas vraiment nécessaire, tout n'est pas dangereux avec le téléphone.
Les personnes ont toujours utilisé leur téléphone au volant. Moi, il a accroché, oui, je l'utilise. Mais...
Pourquoi faire ?
Bah, pour répondre, mais pas pour envoyer des textos.
Globalement, les automobilistes trouvent la mesure trop sévère, comme Samy, mais 14% des accidents mortels ont pour cause l'inattention, principalement due au smartphone. Alors pour le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe, c'était le seul moyen.
C'est l'idée de dire, bon, puisque ça marche pas pour l'instant avec la contravention, on va augmenter d'une gamme. C'est très effrayant comme phénomène, mais je crois que c'est lié au fait que le téléphone est pour nous tous une addiction.
Et pour rappel, Raphaël, l'usage seul du téléphone au volant sans infraction donc est puni de 135 euros d'amende et de 4 points retirés sur votre permis de conduire.
Merci Marion. Et puis du changement, il y en a dans l'habitacle. Il y en a aussi pour les automobilistes du côté de Bègles. La ville dirigée par un maire écologiste va généraliser la limitation de vitesse à 30 km/h. C'est une première pour une commune de 27 000 habitants qui prend effet dès cet après-midi.
Il y a certains endroits où ça se mérite, mais d'autres ça se mérite pas du tout. Parce qu'il y a certaines zones, dans Bègle, on peut rouler au moins à 50 minimum. Quoi. Si ces messieurs veulent contrôler, ils vont se remplir les caisses.
Je pense que c'est une bonne chose, que ça permet de sensibiliser à la problématique de l'environnement et que du coup ça pourra servir de modèle à d'autres communes par la suite, j'espère.
Mais 50 déjà c'était un peu chaud, moi je trouve, donc en ville, donc 30, j'espère que ça va pas être trop réprimandé. Espérons que ça va pas trop jouer sur le commerce, surtout pour nous, parce que déjà qu'il n'y a pas énormément de place ici à Bègle, donc si en plus les gens peuvent pas rouler et peuvent pas se garer, ça va être compliqué pour le commerce.
C'est très bien, oui, 30 km/h, on roule généralement en dessous des 50, ça va pas nous changer la vie. Hein.
Les rues sont étroites, déjà on a mis des ralentisseurs divers et variés. L'automobiliste est contraint de rouler aux alentours de 30 km/h. Hein. On dépasse guère à cette vitesse-là si on regarde bien.
Avis des habitants de Bègles partagé, vous l'avez compris, au micro de Stéphane Place.
Europe 1, il est 12h38, c'est la suite du journal Raphaël Duchemin.
Restez avec nous dans un instant. Le rattrapage a commencé pour 104 000 élèves qui espèrent encore décrocher le bac. A tout de suite.
Il est 12h41 sur Europe 1, la suite du journal. Raphaël Duchemin.
C'est ce matin que les oraux de rattrapage du bac ont commencé dans une drôle d'ambiance, car devant les portes des établissements, il y avait les élèves venus passer les oraux, mais aussi les recalés qui espèrent un miracle et les profs qui avaient fait de la rétention de copies venus les rendre. Claudia Bertram, vous êtes au lycée Le Corbusier d'Aubervilliers. Photo, faut le dire, assez inédite.
Oui, dès 8h ce matin, les professeurs grévistes ont rapporté près de 250 copies. C'est autant de résultats en suspens qui devraient être affichés définitivement à 18h. Et pour les élèves censés passer des oraux de rattrapage avant, c'est la grande confusion. Théo a 4 notes provisoires. Il doit passer son oral dans moins d'une heure.
Ils sont venus me dire que comme quoi ils n'ont toujours pas d'infos et qu'il faut que j'attende jusqu'à 13h30. Je pense que je vais passer au rattrapage. Hein. Parce que je pense pas qu'ils auront d'infos aussi rapidement. Si je passe au rattrapage et on me dit que j'ai eu le bac sans le rattrapage, bah c'est quand même... Un stress en plus, qu'on sait pas, on est perdu quoi.
Rislaine aussi est un peu perdue, elle n'a pas eu les rattrapages, mais espère que ses vraies notes lui en donneront l'accès.
J'attends cette note pour savoir si je passe au rattrapage, parce que le rattrapage c'est à 8 de moyenne, et je suis à 7,94. En fait on sait pas où on se situe quoi, on est à ça du rattrapage, on est à ça du redoublement. Étant donné que c'est à 18h, la journée de rattrapage elle sera terminée, donc si ma note d'SES me permet d'aller au rattrapage, je passe demain. C'est les montagnes russes quoi.
Des élèves qui ne savent pas s'ils doivent ou non passer les oraux, et des profs toujours en grève qui refuse de faire passer les épreuves. Comme Dasha, elle enseigne l'anglais en Seine-Saint-Denis.
On a des fausses notes, on se base sur quelque chose qui est complètement faux et on ne peut pas travailler par-dessus ça. Je ne peux pas évaluer un élève où je ne suis même pas sûre qu'il devrait être là en fait aujourd'hui.
En fin d'après-midi, les professeurs grévistes se réuniront pour décider quelle forme prendra la suite du mouvement à la rentrée. Car ils l'assurent, ils ne s'arrêteront pas là.
Merci Claudia Bertram pour Europe 1. La Cour de cassation fera savoir la semaine prochaine, le 17 juillet, si elle s'estime compétente pour se prononcer sur le plafonnement des indemnités prud'homales. Elle avait été saisie par plusieurs syndicats qui contestent la validité des ordonnances Macron.
Il est 12h43, Raphaël Duchemin sur Europe 1.
À Gobertin, près de Pithiviers, un bébé d'un an a été oublié 2 heures hier par ses parents dans la voiture. Le couple l'a laissé dans le véhicule familial devant leur maison. L'enfant a été hospitalisé. Son pronostic vital est engagé. Les parents sont actuellement à son chevet, mais le parquet d'Orléans a ouvert une enquête pour délaissement et blessures involontaires. La mort de Vincent est désormais inéluctable et nous ne pouvons que nous y résigner. Cette fois, c'est terminé. Voilà ce qu'écrivent ce matin dans une lettre ouverte les parents de Vincent Lambert. Courrier communiqué par leur avocat, le tétraplégique en état végétatif depuis plus de 10 ans maintenant, a vu les traitements qui le maintenaient en vie stoppés cette semaine après une décision de la Cour de cassation rendue à la fin juin. Agnès Buzyn a-t-elle rédigé la bonne ordonnance pour faire baisser la température dans les pharmacies? La ministre de la Santé a dévoilé ce matin sa feuille de route pour lutter contre la pénurie de médicaments. Ça doit vous parler. Un Français sur 4 a déjà vécu pareille situation. Bonjour Mélanie Gomez.
Bonjour.
Ces mesures vont-elles vraiment régler le problème?
Alors pour le moment, la ministre a juste présenté ses grandes orientations. Par exemple, elle vise plus de transparence à l'avenir entre les différents acteurs du secteur, notamment entre les labos et les grossistes. Et puis, elle a permis aussi aux pharmaciens de remplacer un traitement indisponible par un autre lorsque c'est un médicament essentiel aux patients. En réalité, c'est déjà ce qu'il se faisait, mais jusque-là, c'était pas tout à fait légal. Alors tout ça, c'est un point de départ, mais clairement, il va falloir aller plus loin avec des mesures concrètes en septembre, car en pharmacie, la situation est parfois catastrophique. Sur 100 médicaments commandés, il y en a toujours au moins 20 qui manquent. Résultat, des patients qui repartent bredouilles, comme Merab, qui cherche désespérément du Colyre en unidose. C'est tous les jours qu'il faut les gérer.
Produit contingenté, donc là ça veut dire que le médicament est en rupture. Je peux pas vous le commander parce qu'en fait il n'est pas fabriqué en ce moment par le laboratoire.
D'accord.
Voilà. En revanche, il y a le flacon.
Je vais passer la semaine prochaine pour voir si le laboratoire prend des décisions.
Ok, donc vous repassez la semaine prochaine et on fera une nouvelle demande.
Alors les pharmaciens le disent, hein, tous les jours ils perdent plus d'une heure au moins à trouver des solutions, à passer des coups de fil au médecin pour changer de médicament ou alors à couper les comprimés en deux pour avoir les bonnes doses. Et puis il y a aussi cette crainte, hein, que les patients les plus fragiles arrêtent leur traitement. Un sondage publié en janvier dernier montre que pour un malade sur 20 qui a été confronté à une rupture de stock, ça s'est terminé par une hospitalisation.
Merci Mélanie. Un pompier volontaire a été écroué dans l'Hérault pour incendie. L'homme âgé de 47 ans avait été interpellé vendredi à Florence. Il est soupçonné d'avoir provoqué 13 départs de feu entre 2017 et 2019.
12h45 sur Europe 1, la suite du journal avec Raphaël Duchemin.
La Grèce a un nouveau Premier ministre. Kyriakos Mitsotakis doit être investi dans ses fonctions d'ici quelques minutes. Hier, le chef de file des conservateurs a balayé sans surprise le chef du gouvernement sortant, Alexis Tsipras, en totalisant près de 40% aux législatives. Bonjour Sébastien Krebs.
Bonjour.
C'est donc le grand retour de la droite au pouvoir avec, comme le dit d'ailleurs ce matin à un grand quotidien d'Athènes, un message fort pour de grands changements. Porté par un homme qui fait penser à quelqu'un qu'on connaît bien ici en France.
Oui, un quinca diplômé d'Harvard et qui a fait une partie de sa carrière dans la banque. Ça ne vous rappelle rien. On est assez tenté effectivement de le comparer à Emmanuel Macron, Kyriakos Mitsotakis, parfaitement anglophone et francophone. C'est l'élite grecque conservatrice qui revient aux affaires. Il est aussi l'héritier d'une lignée de politique, fils d'un ancien Premier ministre. Sa sœur a été aussi maire d'Athènes et ministre des Affaires étrangères. Voilà pour le profil de celui qui a mis à terre Alexis Tsipras, le leader de la gauche radicale qui avait triomphé en 2015 et suscité tous les espoirs en promettant de mettre fin à l'austérité, promesse à laquelle il dut renoncer, le pays se retrouvant au bord de la faillite quelques mois plus tard. Depuis, la Grèce a certes retrouvé la croissance et a fini par sortir des plans de sauvetage, mais elle reste sous étroite surveillance et tout cela s'est fait au prix de violentes hausses d'impôts qui étouffent les classes moyennes. Le chômage a aussi trop peu baissé et 35% des Grecs vivent toujours sous le seuil de pauvreté. Mitsotakis a donc fait beaucoup de promesses. Il veut aller très vite. Il a promis de faire voter surtout dès cet été 20% de baisse de taxes. Il veut aussi réformer et moderniser le très lourd secteur public, rendre le pays plus attractif pour les investisseurs et relancer la croissance. Mais il n'a jamais expliqué comment financer ces baisses d'impôts et certains s'attendent à de nouveaux bras de fer avec les Européens si le déficit grec venait à nouveau à se creuser.
On suivra ça. Merci Sébastien Krebs. Le Kremlin se dit à son tour inquiet ce lundi de la décision de Téhéran. L'Iran qui a annoncé avoir commencé à enrichir son uranium à un niveau pourtant prohibé à plus de 4,5%. L'accord international sur le nucléaire interdit d'aller au-delà des 3,67%. Et à l'instant, l'Union européenne appelle à son tour l'Iran à cesser ses activités d'enrichissement.
Il est 12h48. Europe 1.
Reste avec nous dans un instant le sourire de Teddy Riner. Le judoka français a remis le kimono avec brio pour une victoire cette nuit à Montréal. A tout de suite.
Europe 1, il est 12h50, la suite du journal de la mi-journée avec Raphaël Duchemin.
Retour gagnant pour Teddy Riner à Montréal. Le double champion olympique et multiple champion du monde n'avait plus mis les pieds sur un tatami depuis un an et demi. Il s'est imposé face à un Japonais qu'il avait battu aux Jeux de Rio en finale, mais ça n'a pas été qu'une simple formalité. Non, le Français a dû batailler. Une victoire qui met en selle pour les Jeux de Tokyo, Teddy, the winner.
Ça fait plaisir. Après, ça fait quand même... Voilà, 18 à 20 mois que j'ai pas fait de la compétition, donc forcément il manque un peu d'automatisme et de repères, mais voilà, le tout c'est d'être allé au bout avec les moyens que j'avais. Maintenant je sais très bien que j'étais pas à 100% de mes capacités pour monter sur cette compétition, mais l'essentiel c'était de prendre les meilleurs, de savoir où j'en suis, de faire un point, donc je suis très content. Maintenant aussi il faut se laisser le temps, il reste encore un an pour bien préparer et surtout repartir au boulot.
Teddy Riner à l'arrivée à Paris avec Cyril de la Morinerie. Le soulagement pour Sochaux ce midi, l'équipe a remporté son appel face à la DNCG. La Fédération française de foot maintient le club en Ligue 2, mais avec une mesure d'encadrement de la masse salariale et des transferts pendant toute la saison. Et puis tout l'été, on va retrouver sur Europe 1 Stéphane Place dans les allées de la librairie Mola à Bordeaux, la première librairie indépendante de France, comme l'année dernière, a décidé de vous aider à choisir les polars, les romans, les essais ou les bandes dessinées que vous allez glisser dans vos bagages. Aujourd'hui, on remonte le temps pour tourner les pages d'un ouvrage d'histoire qui retrace la vie de Cléopâtre, celle que vous croyez connaître.
Elle est la plus célèbre des reines de l'Antiquité au point d'avoir suscité de nombreuses légendes, des quantités de romans, pièces de théâtre et un film datant de 1963 qui lui a donné les traits d'Elizabeth Taylor. Un très joli nez, s'exclame Panoramix sous la plume de Goscinny. Cléopâtre, nous en avons tous une représentation bourrée de clichés. Mais qui était vraiment cette femme capable d'inspirer tant de fantasmes encore aujourd'hui? C'est précisément l'intérêt de l'ouvrage que signe l'universitaire Maurice Sartre, Cléopâtre, un rêve de puissance, paru chez Taillandier, le coup de cœur de Jean-Baptiste Garros, libraire chez Mola.
Il démonte complètement cette image, une image assez hollywoodienne finalement. C'est une tragédie, la vie de Cléopâtre dans l'imaginaire, amoureuse de César, amoureuse d'Antoine, contraint au suicide, l'acte final. Ce que montre Maurice Sartre dans ce livre, c'est que, au contraire, Cléopâtre, si on peut dire, est un véritable homme d'État et une reine qui, tout au long de son règne, a manœuvré et n'a jamais été finalement victime, mais a tenté justement de modeler les événements pour refaire de l'Égypte la plus grande puissance antique qu'elle était. Elle manœuvre au milieu des hommes. Au début de sa vie, elle a eu à renverser son frère. Ensuite, elle devra manœuvrer et lutter contre Rome, notamment cette espèce de trio que forment César, Marc-Antoine et Octave. Maurice Sarthe se met à la portée du lecteur. C'est presque une épopée, un péplum, mais un péplum réaliste qu'on lit à travers ces pages.
Grand spécialiste de l'antiquité gréco-romaine, Maurice Sarthe livre 300 pages qui installent, enfin, a-t-on envie de dire, Cléopâtre dans la réalité de son époque.
La Cléopâtre qu'on nous sert un peu partout, c'est une reine qui n'a jamais existé. Elle sait très bien que Rome est toute puissante en Méditerranée. Elle le sait d'autant mieux que son propre père a été rétabli sur le trône en Égypte, à Alexandrie, par Rome. Mais en même temps, elle va essayer, non pas de se libérer des Romains, mais de retrouver la puissance de ses ancêtres grâce aux Romains. Alors, on a beaucoup insisté sur ces liaisons. Honnêtement, qui peut dire quels sont ses réels sentiments pour César ou pour Antoine? Bon, pour César, ça a été, je dirais, éphémère. Avec Antoine, ils ont vécu 11 ans ensemble. Ils ont 3 enfants. Parler de simple manipulation politique, ça me paraît très excessif. D'autre part, on s'aperçoit qu'à certains moments, elle diverge d'Antoine. Tout simplement parce qu'elle a des intérêts qui sont, de fait, pas ceux d'Antoine. Et là, les intérêts d'une reine qui veut reconstituer un royaume digne de celui de ses ancêtres, avec des possessions en Syrie, en Cilicie, en Crète, pourquoi pas dans les Cyclades, bien sûr Chypre, Cyrène, c'est pas conforme ou en tout cas c'est pas toujours compatible.
Alors si vous voulez découvrir le vrai visage de Cléopâtre et voir un peu plus loin que le bout de son nez, l'ouvrage de Maurice Sarthe est pour vous.
On vous retrouve Stéphane dès demain, toujours dans les allées de la librairie Mola.
Europe 1, il est midi 55.
Europe 1. Et on reste ensemble, le nautisme tricolore est à l'honneur aujourd'hui, c'est dans quelques minutes et c'est la France qui bouge. À tout de suite.
Et on regarde par la fenêtre la météo, Raphaël Duchemin.
Avec Elena Morna, les orages commencent à éclater du côté des Pyrénées.
Et attention, ils seront de plus en plus violents ces orages d'ici ce soir entre le sud de la Garonne et le golfe du Lion. 7 départements sont pour le moment en vigilance orange, vigilance qui devrait s'étendre vers le Languedoc-Roussillon cet après-midi. Les orages seront localement accompagnés de fortes averses, de pluie ou de grêle et de vives rafales de vent. Alors sur les autres régions du tiers sud, c'est un ciel voilé, du soleil sur les deux tiers nord, quelques nuages, c'est le long des frontières du Nord, d'autres entre la Bourgogne et la Franche-Comté, le tout dans une atmosphère contrastée. 18 degrés cet après-midi à Dunkerque, mais 36 degrés encore à Nîmes, 23 à Caen et Colmar, 25 à Paris et Besançon, 29 à Quimper et Bourges, 31 à Bordeaux, 32 à Lyon, 33 pour Marseille. Des températures qui baisseront demain dans le Sud-Est. Enfin, température en baisse puisque voilà les orages à partir de demain. Attention, les orages vont se calmer, ceux du Sud-Ouest cette nuit, mais ils reprendront de plus belle en matinée avec encore sans doute des averses de grêle possibles.
Merci Elena.